Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Première nuit de prison pour Tariq Ramadan. Accusé de viol, le théologien suisse a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire par mesure de précaution. La Corse dans la rue cet après-midi. Les dirigeants nationalistes espèrent une forte mobilisation 3 jours avant la visite d'Emmanuel Macron. Et toujours l'incompréhension après la collision de ces 2 hélicoptères militaires hier matin près de Brignoles dans le Var. Accident qui a fait 5 morts. Dans l'actualité de ce samedi encore, des mouvements de protestation à l'instauration des 80 km/h sur les routes secondaires de France prévues le 1er juillet prochain. Cet après-midi, automobilistes et motards seront côte à côte dans la capitale pour manifester. Enfin, côté sport, c'est le coup d'envoi aujourd'hui du tournoi Destination avec Pays de Galles, Écosse cet après-midi, suivi de France-Irlande à 17h45 au Stade de France. Il sera également question de tennis avec le premier tour de la Coupe Davis où la France et les États-Unis sont à égalité. Rendez-vous dans le journal des sports présenté ce matin par Léo Teicher.
France Inter.
Première nuit de prison donc pour Tariq Ramadan. Après 48 heures de garde à vue, les 3 juges d'instruction chargés du dossier ont non seulement décidé hier soir de mettre en examen pour viol l'islamologue, mais qui plus est de l'incarcérer en détention provisoire. Sophie Parmentier.
Emprisonner Tariq Ramadan pour éviter peut-être que l'islamologue suisse ne prenne la fuite, lui qui ne réside pas en France. L'emprisonner peut-être aussi pour être certain qu'il n'exerce pas de pression sur les jeunes femmes qu'il accuse de viol. C'est le choix que la justice a fait provisoirement en attendant qu'ait lieu un vrai débat comme il y en a après chaque mise en examen devant le juge des libertés et de la détention. Ce débat, Tariq Ramadan a demandé à le différer hier soir, mais il aura forcément lieu dans les 4 prochains jours. En attendant, le théologien controversé est donc en prison. Le symbole est très fort et pour les 2 jeunes femmes qui ont porté plainte contre lui, c'est un soulagement. Elles sont soulagées surtout que l'islamologue ait été mis en examen pour viol. Malgré ses dénégations répétées, il nie les faits, mais ses accusatrices ont l'impression d'avoir été enfin crues, dit un de leurs avocats, qui espère maintenant que d'autres jeunes femmes qui ont déjà témoigné anonymement aient à leur tour le courage de déposer plainte contre Tariq Ramadan.
Sophie Parmentier du service police-justice de France Inter.
Les Corses dans la rue, ce sera cet après-midi à Ajaccio. 40 000 personnes sont attendues.
3 jours avant l'avenue d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté, les dirigeants nationaux Corses qui ont appelé à ce rassemblement espèrent une mobilisation massive en effet dans l'intention de défendre leurs revendications et surtout de pousser le chef de l'État à ouvrir un dialogue. Dialogue qui, selon eux, serait toujours au point mort. Un appel à la mobilisation qui n'est toutefois pas sans risque, Marion Galland.
C'est une manifestation à haut risque pour les leaders nationalistes, un signal envoyé à Paris qui pourrait se jouer à qui tout double. L'objectif affiché par les organisateurs est de rassembler entre 20 et 40 000 personnes, ce qui en cas de succès serait une vraie démonstration de force. Seulement voilà, une telle mobilisation ne s'est que rarement vue dans l'île et ne sera pas facile à atteindre et une trop faible participation ne ferait que faire pencher un peu plus la balance du côté parisien. Deuxième point, celui de la sécurité. Des incidents seraient un bien mauvais signal pour une manifestation dont les leitmotifs sont la démocratie et le respect. Un service d'ordre a bien évidemment été prévu, mais on ne peut pas totalement écarter la présence d'éléments perturbateurs internes ou externes au sein du cortège. Enfin, cette manifestation en forme de pression pourrait ne pas être très appréciée par le président de la République, dont tout le monde attend des annonces concrètes lors de sa prise de parole mercredi à Bastia.
Début de cette manifestation à 14h30 cet après-midi dans les rues d'Ajaccio. Dossier à retrouver sur franceinter.fr.
Les adhérents de l'UDI, l'Union des démocrates et des indépendants, connaissent depuis hier les noms des candidats à la présidence de leur parti.
Les ou plutôt le nom, puisqu'en fait il n'y en aura qu'un seul candidat à cette élection prévue le 17 mars prochain, celui de l'actuel président candidat, donc à sa succession, Jean-Christophe Lagarde. Si le parti centriste créé en 2012 par Jean-Louis Borloo n'a pas eu de difficulté à trouver son candidat, en revanche, il peine à trouver sa place dans un paysage politique recomposé, Estelle Schmitt.
Le centre aujourd'hui, c'est Macron, résume un député centriste. L'UDI est politiquement débordée par La République En Marche, difficile pour elle d'occuper l'espace, d'autant que le parti a perdu 10 députés en juin dernier et que 2 de ses composantes l'ont quitté. Les centristes d'Hervé Morin et le parti radical valoisien, aujourd'hui réunifié avec le parti radical de gauche. L'UDI est presque devenue une coquille vide, déplore un sénateur. D'autres centristes se réjouissent au contraire qu'il y ait désormais moins de chapelles, donc moins de divisions dans le parti. Ils espèrent que parler d'une seule voix les fera fera peser davantage. Et l'UDI ne veut plus jouer les supplétifs lors des élections. Avec le parti Les Républicains, la rupture est consommée. Terminées les alliances, désormais les soutiens se décideront au cas par cas, explique Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI.
Pas question pour nous de soutenir des candidats qui sont dans une dérive droitière et sectaire. Pas question non plus de rejeter ceux qui, comme nous, disent la droite, le centre, ça n'est pas ça. Le centre et la droite progressiste est capable de s'allier avec des gens d'En Marche quand c'est nécessaire. Cette liberté, elle permet de choisir non pas en fonction des étiquettes, mais en fonction des gens qui sont proches de nos idées.
Et l'UDI a décidé de soutenir les candidats de La République En Marche lors de deux élections législatives partielles qui se tiendront en mars.
Et puis un rendez-vous politique sur France Inter à 8h20 dans quelques minutes. Donc, c'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, qui sera votre invité, Eric
Delfour. Et vos questions à Pierre Laurent ce matin, vous appelez le standard 01 45 24 7000. Que s'est-il passé hier à Carcès? Quelles sont les causes à l'origine de cet accident d'hélicoptère militaire qui a fait 5 morts? Alors, si pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. En revanche, on sait qui se trouvait à bord de ces deux gazelles.
Oui, 5 militaires, 3 instructeurs confirmés de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre basée au Canet des Morts et leurs 2 stagiaires, enfin, des stagiaires qui étaient eux aussi des pilotes confirmés. En tout cas, au Canet des Morts, où 600 pilotes sont formés chaque année, c'est l'abattement et l'incompréhension, comme a pu le constater notre envoyé spécial Olivier Martoc.
Sur la base du Canet des Morts, il n'y aura pas de vol ce week-end. Les gazelles qui servent à la formation des pilotes resteront dans les hangars. Pour les militaires, l'heure est au recueillement.
On est une petite équipe, tout le monde se connaît, c'est des gens qui étaient là depuis très longtemps. On a mis en place tout de suite une cellule psychologique, à la fois pour les familles, parce que je pense d'abord aux familles, ça a été le plus dur pour nous, et à la fois pour les camarades qui connaissaient très bien ces instructeurs, ces stagiaires. Oui.
Florence Parly est venue sur le tarmac de la base apporter le soutien du gouvernement, tout comme le maire du Canet des Morts, Jean-Luc Longourt, au nom des habitants de sa ville.
C'est une part de nous-mêmes, parce que c'est des familles qui sont parfaitement intégrées, qui sont dans nos écoles, qui sont dans nos associations. C'est une injustice.
Les moniteurs totalisaient chacun plus de 3000 heures de vol. Les pilotes, qui faisaient un stage pour devenir chef de bord, appartenaient au prestigieux 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, basé à Pau. Personne ne comprend ici ce qui a pu entraîner la collision, alors que l'exercice n'avait pas encore démarré. Le Canet des Morts, Olivier Martoc, France Inter.
L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de l'air. La situation est loin d'être revenue à la normale sur le front des inondations, que ce soit sur les rives de la Marne ou bien encore de la Seine. De nombreux habitants gardent encore les pieds dans l'eau. L'événement est rare pour être signalé. Pour une fois, automobilistes et motards seront côte à côte pour manifester leur opposition à la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/h prévue dès le 1er juillet prochain sur les routes secondaires de France, routes sans séparateur. Ainsi, cet après-midi, motards en colère et automobilistes citoyens vont se retrouver dans l'est de la capitale pour mettre en avant leur opposition à cette mesure. Un reportage de Béatrice Duguay.
Julien Costantini est amateur de voitures anciennes, membre aussi de la Fédération française des automobilistes citoyens. Il admet, sans embâge, faire quelques entorses au code de la route. Mais il estime que la vitesse en tant que telle n'est pas forcément dangereuse, plutôt la vitesse excessive.
Je roule dans des voitures anciennes. On sent bien mieux les effets de la vitesse. La voiture vous fait comprendre. Donc je vois souvent des gens qui respectent la limitation de vitesse, mais par exemple qui font fi d'autres règles élémentaires comme les distances de sécurité. Sous la pluie, sur l'autoroute, c'est limité à 110. Sauf que des fois, à 110, on ne voit rien.
Et à 80 km/h à moto, on se traîne, peste Jean-Marc Bellotti, le président de la Fédération des motards en colère de Paris.
On s'endort, mais en voiture aussi. Et c'est pour ça que ça pose un problème. Parce que les gens, puis s'emmerdent dans leur voiture, puis cherchent à s'occuper, et ben donc ils vont prendre les téléphones portables. Regardez sur les autoroutes, la première cause de mortalité, c'est l'endormissement.
Certes, concède le motard, l'impact des accidents sera moindre à 80 à l'heure qu'à 90. Mais il redoute aussi que les automobilistes prennent plus de risques pour doubler. Pour lui, les vrais soucis sont ailleurs.
L'alcoolémie, ça c'est dramatique l'alcoolémie. Les stupes, les téléphones portables au volant, ça. Oui, ça c'est dangereux. Mais ça prend du temps, et ça prend de l'argent. Et donc le gouvernement, ils sont plus enclins à mettre en place des mesures qui vont rapporter de l'argent, plutôt que de faire des mesures cohérentes.
En 2016, 1911 personnes, plus de la moitié des victimes d'accidents de circulation, sont mortes sur des petites routes de campagne.
Béatrice Duguay a noté que le dernier bilan publié cette semaine par la sécurité routière fait état d'une légère baisse du nombre de victimes pour 2017. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Papa was a Rolling Stone, un tube de 1972, pour vous dire que son auteur, Dennis Edwards, du groupe américain The Temptations, s'était éteint jeudi. Il allait avoir 75 ans ce samedi. Papa was a Rolling Stone, c'est le titre le plus emblématique de ce groupe américain de soul and rhythm des années 60. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
C'était le journal de Serge Martin.